votre nouveau rendez-vous sur la Hip Hop Soul Radio.
Très bonne soirée à l'écoute de l'Hip Hop Soul Radio, c'est la Malel Pistolero pour l'Octogone, l'Octogone Show. Aujourd'hui nous sommes avec Béor, ouais j'ai bien dit Béor, il a raconté son histoire incroyable, j'ai bien dit une histoire incroyable mais vraie sur Origine Média et aujourd'hui il est sur Génération pour en parler avec nous. Comment tu vas mon frérot?
Ça va au calme.
Et au toi, calme, tranquillement?
Ouais tranquille.
Détente, t'as passé une bonne année?
Ça dépend de quel point de vue tu te positionnes, hein. Mais ouais. Sinon,
là, 2023, y a rien eu y a rien eu de grave, quand même.
Oh, si, on a retrouvé quand même une gosse, là, y a deux jours de ça.
Ah, mais c'est bon, c'est une bonne nouvelle.
Ah, c'est une bonne nouvelle, ça dépend pour qui. Après, moi, c'est vrai que là, le 2 janvier, ça m'a mis un petit coup de boost parce que ma fille avait disparu le 2 janvier, elle a trempé le poil. Donc, du coup, il y a plein de flashbacks qui sont revenus et. Ouais, je commence toujours de toute façon l'année avec ces souvenirs qui sont un peu durs quoi. Tu vois.
Justement, on va parler de cette histoire incroyable. Ta fille a disparu justement, elle a été finalement retrouvée. Heureusement, elle avait été enlevée à Paris, elle a été séquestrée aussi dans les Vosges. Chez un jeune homme, bon de toute façon on est là pour en parler, donc tu pourras nous raconter plus en détail parce que c'est toi-même qui as vécu cette histoire. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que tu as décidé de créer un collectif LDA.
Exactement, LDA, les disparus anonymes.
Exactement, les disparus anonymes, un collectif justement qui permet de travailler avec des personnes comme nous, hein, des humains, on va
exactement,
dire des êtres humains, voilà, hein, pour retrouver les gens
disparus. Ouais. C'est ça qu'on a appelé justement les disparus anonymes, parce que c'est des gosses que la plupart du temps les flics ne recherchent pas, ni l'État, son fonds royal, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que ça s'appelle les disparus anonymes, tout simplement.
Justement, dans cette on va dire... ce collectif, ouais. Voilà, ce collectif, il y a plus de 1000 personnes.
Actuellement, là, au mois de janvier 2023, du coup, on est à 1400 personnes en France et on est à plus de 450 en Europe, en plus de la France. Parce qu'on travaille pas que sur la France, on travaille sur la Belgique, sur tous les pays limitrophes de la France. Parce que des fois, il y a des enlèvements, il y a des ventes d'êtres humains ou des ventes d'organes qui se font dans les pays à côté, quoi. Donc du coup, des fois, on est obligé d'aller chercher aussi des gosses qui sont ou des adolescentes qui sont dans des réseaux de prostitution en Belgique ou en Espagne, mais surtout la Belgique.
Quand justement j'ai vu ton parcours et ton histoire incroyable, je me suis dit mais ce qui est fort, parce que l'être humain, il faut pas oublier, c'est que l'être humain, on est un peu égoïste de base. C'est-à-dire que tu sais, c'est comme quand un peu on est malade. Ouais. Quand on est malade, voilà, on prie pour juste ne plus être malade, et une fois qu'on n'est plus malade, on a oublié qu'on a été malade. Tu vois, et voilà, et l'être humain, il est un peu égoïste, donc dans le sens où je me suis dit putain, il a une histoire, un truc de ouf, tout bon, il a réussi à retrouver sa fille, et quand généralement bah voilà, on retrouve sa fille et qu'on a vécu ce calvaire là on passe à autre chose. Mais toi, ce que j'ai kiffé chez toi, c'est que t'as décidé justement de prendre les choses en main, parce que avec toutes les galères que t'as eues, parce que t'as appelé les commissariats etc, t'as vu que ils s'en foutaient royalement, tu t'es dit hey, il y a plein de parents, il y a plein de personnes qui ont perdu, qui perdu les enfants, qui perdent des enfants, et on va faire en sorte de nous les retrouver. Et ça, c'est fort. Donc, je voulais te féliciter.
Je te remercie
déjà là-dessus.
Je te remercie beaucoup. Mais après, tu sais, moi, quand j'ai récupéré ma fille, j'étais sur la route, hein. J'étais sur la route en train de rentrer parce qu'elle était à 400 km de Paris. Et à ce moment-là, j'étais pas encore dans cette pensée-là de créer un collectif, parce que je connaissais pas les chiffres, hein. À ce moment-là, déjà, moi, quand ma fille a disparu, il y avait 50 000 disparitions de mineurs en France. Donc, il y en avait une toutes les 10 minutes. Donc, imagine-toi le chiffre. À ce moment-là, moi, j'étais pas au courant de ça, quoi, tu vois. Ouais. Et après, ce qui s'est passé sur le retour, j'ai un papa qui m'a appelé, qui s'appelle Dominique, qui est devenu un ami maintenant, tu vois. Et qui m'appelle, il me félicite d'avoir retrouvé ma fille, parce que j'avais fait une vidéo pour dire à tout le monde que j'avais retrouvé, qu'il fallait arrêter de la chercher, parce que on était énormément à la chercher sur Paris. Attention, on n'était pas juste une petite équipe, quoi, tu vois. On était plus de 50 voitures qui tournaient H24 sur Paris pour la chercher. Et du coup, à ce moment-là, il me dit, ma fille a disparu, est-ce que tu peux m'aider? Et à ce moment-là, moi, j'avais un petit coup de buzz sur Facebook, à ce moment-là, surtout. Et j'ai diffusé la photo de sa fille, on l'a retrouvée le lendemain à Séville, en Espagne. Et du coup, encore à ce moment-là, j'étais pas encore parti dans l'idée de créer le collectif. Mais quelques jours après, encore, il y a l'un des mecs qui m'a aidé à retrouver ma fille, qui faisait partie du collectif pour aider à retrouver ma fille. Sa cousine a disparu, on l'a retrouvée. Et c'est à ce moment-là, vraiment, je me suis intéressé à cette situation-là, où je me suis dit, on va y aller, quoi. Et du coup, on a créé la LDA, les disparus anonymes.
Tu vois, c'est la vie, elle est remplie de messages, et dans mes émissions, il y a toujours des messages, et c'est ce que je dis, et ça, c'est fort. Là, tu viens de dire qu'une personne qui t'a aidé,
ouais,
à retrouver ta fille,
exactement,
sa cousine, a disparu quelques jours après.
C'est ça.
Dans la vie, je dis tout le temps, quand on rencontre des personnes et qu'on aide, tu vois, Dieu te le rend ou autre, mais il faut faire les choses. Et tu vois, cette personne-là, elle avait perdu, elle était concernée par ton, par ton problème, on va dire. Elle était concernée, elle était là, elle a cherché, etc. Et au final, ça lui est arrivé. Et vice versa, il y a des gens aussi qui étaient là pour l'aider aussi. Et ça, c'est fort.
Et en plus, ce mec-là, en plus, le pire, c'est qu'il était mineur. Parce qu'à la base, ce petit-là, il est venu m'aider, entre parenthèses, à chercher ma fille parce que il était habitué à venir faire des maraudes avec nous. C'était des maraudes, tu sais, alimentaires dans les rues de Paris. Et du coup, il venait pour découvrir un petit peu c'était quoi l'entraide, etc. et tout. Donc, quand ma fille a disparu, qu'il a eu l'info, lui, il est venu tout de suite nous aider, il est parti chercher avec ses potes, etc. et tout. Et quand sa cousine, elle a disparu, ben, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, j'ai ma cousine qui a disparu, est-ce qu'on peut, remonter un peu l'équipe, quoi, tu vois. Et du coup, on a réglé le truc, on l'a retrouvé le lendemain sur Paris, elle était cachée chez quelqu'un, par quelqu'un, et du coup, c'est fait comme ça. Et à ce moment-là, on s'est dit, il y avait moi, Jean-Christophe et Cassandra, qui sont des très bons amis à moi. On s'est mis ensemble et on s'est dit, écoute, on va lancer la LDL et disparu anonyme. Et là, ça va faire, le 8 janvier, ça va faire 4 ans qu'on existe, malheureusement. Je dis bien malheureusement.
Bien sûr.
C'est pas un anniversaire qui me fait plaisir à fêter entre parenthèses, en plus on le fête pas. Et là on est quand même à 131 enfants disparus en 4 ans et une vingtaine de seniors quoi. Donc tu vois
on va un peu quand même retourner dans le passé et quand même pour vraiment réexpliquer l'histoire. Toi, à ce moment-là où quand tu perds ta fille, c'était le 2 janvier tu m'as dit.
Le 2 janvier 2019.
Ouais. Le 2 janvier 2019. Mais qu'est-ce que tu fais, même si, bon, on l'a déjà vu sur la vidéo, mais tu peux nous réexpliquer un peu comment ça se passe, comment un père vit ça. Ah oui, j'ai vu aussi que il y avait un truc très touchant que tu as dit aussi dans cette vidéo-là. Mm-hmm. Tu disais, j'étais un père avec l'instinct maternel. Donc, en gros, tu as élevé ta fille tout seul, c'est ça?
À la base, moi, ma fille, celle qui a disparu, du coup, je l'ai élevée tout seul pendant 8 ans, avant que je me marie et que je me refasse ma vie. Depuis qu'elle a 3 ans et demi jusqu'à ses 8 ans, je l'ai élevée tout seul. Donc du coup, j'étais le père et la mère, entre parenthèses, de ma fille. Donc j'étais là pour tout, quoi. J'ai vraiment vécu un gros truc avec elle. Donc du coup, il y avait vraiment une relation très fusionnelle, tu vois. Et à ce moment-là, ouais, ça s'est beaucoup mélangé quand elle a disparu. Et ça a été très, 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 très dur. Sachant que moi, en plus, on va dire, j'ai des cadavres dans le placard. Donc du coup, à ce moment-là, quand elle a disparu, moi, la première chose qui m'est arrivée dans la tête tout de suite, c'est est-ce que c'est pas le passé qui m'a rattrapé? Est-ce que c'est pas une sorte de vengeance? Est-ce que c'est pas, tu vois, il y a tout qui se mélange vite, vite, vite. Et après, là, à ce moment-là, moi, ça y est, moi, j'étais déjà sorti de tout ce qui était merde, entre parenthèses, de la rue et tout. Donc, je suis devenu le papa normal qui élève ses enfants, qui s'occupe de son foyer et tout, quoi, tu vois. Et quand ça revient, t'as cet instinct un petit peu très primaire et très violent qui revient tout de suite, où tu deviens tout de suite très très froid, tu deviens tout de suite très menaçant, tu deviens tout de suite... Il y a ton passé qui te rattrape, quoi, tu vois.
Ça, c'est le naturel, il revient au galop.
Ah, t'as tout compris.
C'est normal. Non, mais c'est grâce à cet instinct-là de fauve, on va dire, que t'as pris ton courage à deux mains et t'es dit, hey, poteau, vous allez, parce que, il faut rappeler, t'as été dans les commissariats, parce qu'on va rentrer dans l'histoire aussi petit à petit, t'as été dans les commissariats, t'as vu que ils s'en battaient les couilles en vrai, en gros. Et tu t'es dit, poteau, là, on parle de ma fille, là. C'est-à-dire, je vais aller la chercher moi-même. Donc après, le sentiment que t'as déjà quand tu sais qu'elle n'est pas rentrée.
Bah, à ce moment, déjà, à la base, pour commencer la journée, j'étais en plein tournage. Parce qu'à la base, moi, je suis réalisateur et photographe. Et du coup, le matin même, je tournais une vidéo avec un ami à moi qui est coach, qui s'appelle Coach RT. Okay. Et on tournait une vidéo promotionnelle de son académie de foot. Donc, on a passé la journée au terrain de foot. En plus, on était avec je sais plus comment il s'appelle. Bref, c'était un ancien égérie d'Adidas.
Okay.
Et du coup, on faisait une vidéo avec lui pour faire un beau petit truc, etc. et tout. 18h, je finis, je rentre chez moi et on me dit, la petite, elle est pas rentrée, quoi. Elle devait rentrer, je crois, à 16h, 16h30, un truc comme ça, tu vois. En plus, si j'ai une fille, elle est pas du tout copine, elle est pas sortie.
C'est pas dans ses habitudes.
C'est un garçon manqué. Elle fait de la boxe. Tu vois, elle fait de la bécane, c'est pas. C'est un mec que j'avais à la base, moi, tu vois. Et elle, à fond dans les mangas, tu vois. Donc, c'était pas dans ses habitudes. Déjà, sortir, aller voir une amie, c'était.
Ah, dans les mangas, j'ai pas pris ma veste. William, tu peux aller me chercher ma veste vite fait dans la cuisine, là, s'il te plaît. J'ai une petite veste, là. On va lui montrer à la vidéo à ta fille. Elle va voir. On va voir si elle va kiffer. J'ai une veste qu'on m'a fait sur mesure.
En plus, sur mesure.
Ouais, non, c'est une personne. C'est.
Tu
sais quoi? Si elle kiffe la veste, et ben, je dis à Junkie qu'elle lui fait une veste pareille, similaire. Voilà. Merci, William. Un génie.
Elle m'a l'air pas mal.
On va la montrer.
Ah ouais, d'accord, ok.
Vegeta en mode M.
Je vois ça, je vois ça. Franchement, ça fait propre, hein.
Voilà, DBZ. Voilà, tu vois.
Franchement.
Donc, c'est un kiff, en tout cas, voilà.
Vas-y, vas-y.
Je le dis.
T'inquiète pas, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Je le dis.
Donc elle est fan des mangas, etc. Ouais, c'est un garçon manqué. Donc elle a pas l'habitude de rentrer tard.
Ah, du tout.
Etc. Donc dès que normalement elle doit rentrer à 16h, généralement 16h30 ou 17h maximum,
exactement,
elle est à la maison.
Donc j'ai jamais eu. Tu sais, moi j'avais pas vraiment de problème avec ma fille, comme la plupart des parents. Où elle voulait sortir, elle voulait avoir du rouge à lèvres ou du rouge à ongles, etc. J'ai jamais eu ça de ma vie, moi, avec elle, tu vois. Donc j'étais toujours un petit bonhomme, quoi, tu vois. J'avais plus peur de la récupérer au commissariat que de la récupérer ailleurs, tu vois. Donc il y a ça, quoi. Donc du coup, après, ouais, elle est pas rentrée. Donc du coup, moi, je suis parti faire le tour du quartier, on sait jamais. Hein. Ça peut être un oubli, ça peut être peu importe, hein, tu vois. Ça peut être un oubli de temps, ça peut être plein de choses différentes. Et au bout d'une heure et demie de recherche avec la famille, ben, c'est là que j'ai vu que y a un problème, quoi. Son téléphone, il est sur messagerie. Et à ce moment-là, t'as le cœur qui commence à battre très, très vite et tu dis, voilà quoi. Voilà quoi, tu vois.
Ça sent pas bon.
Ça sent pas bon. Après, j'ai appelé 2-3 personnes pour voir s'il y avait pas un retour du passé. Eux, ils m'ont dit, on te rappelle. Ils m'ont rappelé quelques temps après. Ils m'ont dit, non, non, il m'a dit de ce côté-là, oublie. On sait qu'il y a plus personne sur tes côtes ni quoi que ce soit, tu vois. À ce moment-là, j'ai compris que ça venait pas de là. Et après, je suis parti au commissariat. Je pousse la porte du commissariat. C'est un truc que je déteste à la base. Et là, je leur dis, ma fille a disparu. Comment on fait, quoi? Je leur ai même pas dit, aidez-moi. Je fais, on fait comment?
Ouais. Comment ça se passe? Parce qu'on connaît pas ces démarches. Expliquez-nous.
Voilà. Et je leur ai dit, en plus, à la base, moi, j'y suis allé vraiment déjà pour qu'ils géolocalisent le téléphone, tu vois. Moi, j'avais que ça dans la tête. Hein. Je me suis pas dit qu'elle allait chercher dans la rue est-ce qu'elle était, tu vois. Du coup, ben, même ça, ils l'ont pas fait, quoi. Ni géologue, ni rien. Je l'ai découvert le lendemain qu'ils ont même pas fait d'avis de recherche. Il y a aucun flic de France qui a reçu un avis de recherche quand ma fille avait disparu. Et ça, je l'ai découvert le lendemain, quoi.
Ils l'ont pas fait parce que c'est toi? Ou parce que en France, c'est comme ça, on le fait pas parce que, on a plein d'autres trucs à gérer.
On est l'un des seuls pays au monde, et je dis bien l'un des seuls pays au monde parce qu'ils sont très très peu dans le monde à faire cette connerie, de rechercher un mineur qu'à partir de 24 heures après la disparition.
Ouais, c'est ce que j'ai vu quand.
Ouais. Et 48 à 72 heures pour un adulte. Et je trouve ça, c'est du grand n'importe quoi parce que toutes les études, l'un des pays qui est le plus touché par la pédocriminalité, c'est les États-Unis. Moi, j'ai passé une formation avec une flic de là-bas qui est la femme d'un ami à moi.
D'accord.
Mais en plus, elle est comme par hasard, elle est dans le, tu sais, brigade des mineurs,
recherche.
Et tout. Donc, du coup, c'est une femme qui a fait des formations à Quantico, qui a fait des formations avec le FBI pour les recherches d'enfants et tout, tu vois. Et quand j'ai passé une petite formation avec elle, il y a 2 ans de ça, à peu près, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, quand un enfant, il disparaît, les heures les plus importantes, c'est le temps qu'il faut pour aller jusqu'à la première frontière. Donc, si t'es à Paris, c'est les 4 premières heures qui sont les plus importantes parce que la Belgique, elle a 4 heures. Grosso modo. Tu vois, ça dépend à quelle vitesse tu roules. Mais normalement, c'est 4 heures. Donc, quand un enfant, il disparaît, par exemple, je sais pas moi, à Bayonne, dans le sud, dans le sud-ouest, bah, c'est 1 heure parce que l'Espagne, c'est à 1 heure. Donc, c'est les premières heures qui sont vraiment les plus importantes où tu peux déjà commencer à mettre un plan, épervier en route ou un plan de disparition nationale pour surveiller un peu les frontières, etc. Et en France, on commence 24 heures après, quoi. Ça veut dire 24 heures.
Ils ont le temps de passer 14 frontières.
Ils ont pas le temps de passer 14 frontières, de vendre l'enfant et que l'enfant soit déjà dans un pays étranger, loin de la France, quoi. Et c'est problématique. Tu vois, c'est problématique.
Ok. Donc, à partir de ce moment-là.
Ouais.
Voilà. Tu vas au commissariat, ils se disent, en gros, faut attendre 24 heures pour qu'on lance.
Ils m'ont même pas dit, attends, ils m'ont dit, c'est bon, on a pris votre, le mec, il a carrément fait toute la truc, quoi, tu vois. Il s'est mis, après, je sais pas s'il avait peur que de ma réaction, s'il me disait un truc, tu vois, je sais pas.
Il a fait semblant, en fait, ouais. En gros, il a fait semblant de le faire devant Watt.
Voilà, il s'est mis devant l'ordinateur, asseyez-vous, il prend des informations et tout, il me dit, ouais, c'est bon, l'avis de recherche, il est envoyé à toutes nos patrouilles, s'il la voit sur Drancy.
Et c'est même pas vrai.
C'est même pas vrai. Y a rien du tout. Et quand je suis arrivé le lendemain, j'avais une piste dans le 19e arrondissement. Donc, je vais dans le commissariat du 19. Et je leur dis que j'ai fait un avis de recherche hier à Drancy. Ils tapent sur le, même, tu sais, sur le fichier national.
Ouais, pour voir les avis de recherche.
Rien. Même sur Drancy. Ils m'ont dit non, Drancy, ils n'ont rien fait du tout. Ils m'ont dit, bah, la ville où vous habitez, non, ils n'ont rien fait du tout.
Donc, je réitère ma question. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pour quelle raison tu penses qu'ils s'en foutent, quand il y a des disparitions?
À mon avis, ils ne voulaient pas que, déjà, premièrement, à mon avis, il devait avoir peur de me dire non dans un premier temps. parce que bon, quand je suis arrivé,
ouais, bah,
voilà.
En plus, t'es balèze, donc ils ont dû se dire oulolo, je veux pas de problème, je vais faire semblant.
Hormis ce côté-là, tu sais, quand tu travailles dans le social, tu travailles dans les rues, tu sais que c'est toi qui va calmer des jeunes entre parenthèses dans la ville quand il y a des problèmes. Tu sais que dans une ville, quand la police vient te chercher toi pour calmer certains quartiers, déjà c'est qu'il y a un problème déjà.
De ouf.
Tu vois. Donc quand ils te voient toi venir au commissariat leur demander quelque chose. Je sais pas quelle réaction, à mon avis, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Ou ça se trouve, il s'est juste dit, attends, je vais faire semblant, comme ça, je me débarrasse de lui, qui me casse pas la tête, tu vois.
Mais tu te rends compte, dans les deux cas, c'est terrible.
Bien sûr.
Dans les deux cas, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on va au commissariat. C'est-à-dire que moi, je pense, ça a pas été mon cas, tu vois, mais comme je dis, il y a des gens qui sont égoïstes et d'autres non, parce que moi, je considère que l'union fait la force. Je viens, j'ai perdu ma fille, je viens au commissariat parce que là, en vrai, de vrai, de base, c'est leur métier. Ils sont là pour soi-disant nous sauver. En vrai, si on parle en français, voilà, la police est là pour sauver quand il y a des disparitions, quand il y a des problèmes. Parce que nous, même nous, de toute façon, ils nous le font bien remarquer. Hein, si on se fait justice nous-mêmes, après, ils nous mettent en prison. Tu vois, je vois des trucs, des fois, ouais, le père, il a vengé sa fille, boum, bah, c'est lui qui est en prison.
C'est exactement ça. Moi, j'ai eu un cas où on avait retrouvé une gosse dans le 95 qui était séquestrée dans une cave à 3 km de chez elle. Par un mec, un pédophile. Et ce mec-là, il a fait payer des gens pour venir la violer. Tu vois? Donc les gens, ils ont payé pour venir la violer. Elle était enfermée, enchaînée comme une esclave dans la cave. Tu vois? Bref, on l'a retrouvée. Quand on l'a retrouvée, il y a quelqu'un de mon équipe qui a appelé le père pour le rassurer. Erreur qu'il fallait pas faire tout de suite. Parce que la réaction des parents sont un peu, des fois, sont vraiment très, très dures. Et du coup, je vois le père arriver. Moi, j'avais pas compris comment ça se fait. C'est qu'il savait où on était. Il a voulu rentrer. Moi, j'ai dit, écoute, on l'a déjà bien secoué, donc t'inquiète. Il me dit non, il faut que j'y aille, gros. J'ai regardé mon collègue, je lui dis vas-y, rentre, fais ce que t'as à faire. Mon collègue, il me dit t'es sûr? Je lui dis laisse-le, frère, c'est son enfant qui vient de se faire violer par je sais pas combien de personnes. Je suis qui, moi, pour le retenir, frère? Moi, quand j'y suis allé, personne ne m'a retenu. Tu vois? Il a massacré le mec, les flics qui sont arrivés, le mec il sort, il leur a dit c'est moi qui l'ai frappé. Le mec, il avait massacré le mec, le père il a pris 4 mois ferme. Le père il a pris 4 mois ferme. Le violeur, là, le pédophile, là, lui, il a pris, il est resté 11 mois à l'hôpital, il est sorti, et c'est devenu la victime.
Ah.
Tu vois, c'est devenu la victime. Donc, du coup, c'est pour ça que je te dis, on est bloqué de partout.
Excuse-moi de te couper, mais c'est des petits bâtards. Voilà, non, en vrai, on parle français. T'as vu, moi, c'est un truc vraiment qui me. C'est des petits fils de pute. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand. Des gens ils vendent de la drogue ou quand les gens ils volent, tu vois, pour voilà, et trucs. Quand il y a des gens qui violent ici en France, on les protège. On protège les violeurs et ça c'est un truc de ouf. Ça pour moi, ça je te jure, ça c'est un truc pour moi, c'est impossible que ça passe. T'as vu, je comprendrai jamais cette putain de France pour quelle raison ils défendent, et tu sais même quand ces violeurs là, ils vont en prison. Je les voyais moi-même. Ils étaient protégés. Ils avaient des quartiers isolés où, ah, les violeurs, truc, on les met dans un petit cocon, bien, ils demandent des conditionnels, ils sortent.
On va aller encore plus loin. Tu sais qu'il y a eu des villages en France qui ont été ouverts spécialement que pour les pédophiles. Est-ce que t'es au courant de ça?
C'est des villages,
en gros, c'est des prisons à ciel ouvert. Avec, ils ont pas le droit de sortir.
Oui, ils ont leurs clés, tout ça là. Ouais, j'ai vu.
Ils peuvent se balader, ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
Ils jouent à la pétanque. Ouais. Ils jouent à la pétanque.
Normal. Nature peinture.
Ça, en vrai, bon.
Ouais,
c'est un truc de ouf.
Ouais, et même eu des fois, tu sais qu'avant, à la base, nous, au début, on faisait quoi? On allait, quand on attrapait des pédophiles, entre parenthèses, en flagrant délit ou dans des trucs et tout, on avait toutes les preuves, on cumulait les preuves, on les déposait directement au commissariat avec les preuves et tout. 2-3 heures après, ils sortent.
C'est un truc
normal, comme si de rien n'était. Une fois, un flic, il m'a dit clairement, il m'a dit, écoute, tout ce que t'as réuni là, ça sert à rien du tout. Il m'a dit, là, on va le mettre en garde à vue peut-être. Il m'a dit, en plus, même si on le met en garde à vue, c'est pour le protéger, pour que vous sachiez pas que quoi, il est, c'est ceci, cela, quoi, tu vois.
Justement, qu'est-ce qu'il faut faire, à ton avis? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire changer les choses dans ce...
Il faut les afficher. Mais on est dans un pays, on n'a pas le droit d'afficher les pédophiles.
C'est-à-dire?
Ça veut dire, on n'a pas le droit. En France, t'as pas le droit, toi, de mettre une photo sur Internet et de dire, lui, c'est un pédophile.
Ah ouais?
S'il lui arrive un truc, tu vas en prison.
Ça sera la cause.
Ouais. On est le seul pays en Europe à le faire. Les Anglais, c'est les premiers au monde, avec les États-Unis, à avoir des fichiers de pédophiles. Ça veut dire que les pédophiles n'ont pas le droit de travailler dans des écoles, ils n'ont pas le droit d'approcher une école à moins de je sais pas combien de kilomètres. Il y a vraiment un truc, s'ils le font, ils repartent en prison tout de suite. Il y a un vrai fichier national que tout le monde peut, entre parenthèses, aller voir, consulter. En France, non, t'as pas le droit. En France, maintenant, même un pointeur, il arrive en prison, c'est même plus écrit sur...
Il donne plus les feuilles.
Voilà.
Maintenant, il garde les feuilles. Ouais. C'est-à-dire truc. Et tu sais comment ils reconnaissent en prison maintenant? C'est grâce aux surveillants. Tu te lis d'amitié un peu avec un surveillant et le surveillant, il va te dire. Parce que généralement, c'est fou. C'est malade de pointeurs et de pédophiles. Ouais. Ils font quoi? Ils font les fous en prison. Parce qu'il y a des mecs comme nous, hein. C'est des violeurs. Hein. Quand je te dis des mecs comme nous, c'est-à-dire notre profil, notre dégaine, ils parlent comme nous.
Il y a plus...
Choqué.
Non, il y a plus. Il y a un truc que les gens, il faut qu'ils comprennent. C'est quoi? C'est que aujourd'hui, il n'y a plus d'origine pour la pédophilie. Avant, on avait toujours ce truc-là, des connotations un peu blancs.
Bien sûr.
C'est le blanc, c'est le caucasien, c'est les mecs de l'Est, c'est les Américains et tout. En France, non. Franchement, j'ai arrêté. Moi, j'ai attrapé des Renois, des Rebeux, des Asiates. Il y a de tout. Franchement, il n'y a aucune origine à mettre sur le côté. Et là, il y a beaucoup d'histoires maintenant, malheureusement, de notre culture, où tu as des femmes de notre génération qui ont 30 ans, 40 ans, 45 ans, qui commencent à témoigner de sévices qu'ils ont eu avec leur oncle, leur cousin, etc. et tout, quand elles étaient petites, parce que bon, chez nous, vu que ça fait pas partie de notre culture, entre parenthèses, on n'a pas ce truc-là de se méfier.
Oui, bien sûr, c'est-à-dire que tu laisses avec la tante, tu dis tranquille, c'est la famille, le Cléon, normal.
T'as le cousin qui vient du bled, t'as le cousin qui vient du bled, il dort chez toi.
Impossible.
Tu dis jamais de la vie. Ouais. Mais là, il y a tellement d'histoires qui remontent, là. Là, on a fait le témoignage d'une femme qui s'appelle Amal, il n'y a pas très longtemps, chez nous, parce qu'on a lancé un truc qui s'appelle LDA Chronicle.
Okay.
Chronique de la LDA.
Lourd.
Du coup,
on peut retrouver ces chroniques
sur Instagram, directement sur Instagram de la LDA. Il y a des vidéos justement.
LDA Chronicle.
Non, c'est LDA. Il disparu anonyme. On l'a partagé directement dedans.
Okay.
C'est une rubrique qu'on a fait directement dans Instagram.
Okay.
Et du coup, c'est une femme d'origine tunisienne qui a été violée par son oncle à partir de l'âge de 3 ans et demi et pendant quelques années parce que son oncle il habitait chez elle, quoi, tu vois. Et le jour où elle a dit ça à ses parents, quand elle a vraiment grandi, qu'elle savait ce que c'était qu'un viol et compagnie, quand elle a parlé à ses parents, ils l'ont jeté à la porte. Ils l'ont dit, casse-toi, tu vois. On te croit pas, quoi, tu vois. Donc, tu vois, on a encore beaucoup de lacunes avec cette acceptation que même chez nous, ça peut exister. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont été brisées chez nous à cause de ces conneries-là et on n'en parle jamais, quoi, tu vois.
C'est un truc de ouf.
Exactement.
Franchement, t'as vu, là, on peut... laisse tomber. Bravo. J'ai envie de dire bravo pour franchement pour ce que t'as fait, le collectif que t'as monté LDA. Franchement, il faut respecter. Souvent, on est là, à génération, je reçois des gens, des stars, hein, comme on le dit, des stars dans l'anime. Mais en vrai, que ça soit les associations, et que ça soit les gens comme toi aussi qui montent, voilà, des collectifs, des groupes de collectifs. Pour moi, c'est vous les vrais stars, parce que franchement, vous pensez à ce qui est important pour nous. Pour nous, être humains, parce qu'on est tous des êtres humains, tu vois. Et ça, c'est important. Et de penser à autrui. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est à des gens comme toi, tu vois, qu'il faut donner de la force, qu'il faut propulser et qu'il faut mettre en valeur. Et franchement, je suis fier de toi dans le sens où, et je suis content que tu viennes, publiquement, tu vois, parler de ces histoires et te mettre en avant ça. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la nouvelle exposition, tu vois, c'est la nouvelle.
Bah, j'étais obligé, moi, de le faire. Excuse-moi de te couper. J'étais obligé de le faire parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un premier article qui est sorti sur nous, dans le Parisien à l'époque. Parce qu'à base, on était vraiment dans l'ombre. On n'était pas encore dans cette surmédiatisation qu'on a aujourd'hui. Et du coup, je voulais pas qu'on sache qui on est parce que des fois, on avait des moi j'appelle ça des expéditions un peu punitives sur certains pédophiles, etc. et tout. Donc on travaillait dans l'ombre, on savait pas qui on était, on était tranquille. Et le jour où on a fait un papier sur moi, tout de suite, t'avais une classe politique qui commençait à se mettre en avant, qui voulait faire de la récupération parce qu'ils savaient pas qui on était. On était pas identifié encore à ce moment-là. Et c'est là que ma femme et des amis à moi, ils m'ont dit, non, il faut que tu y ailles, gros. Là, il faut que tu y ailles parce que s'ils font de la récupération sur ça, le mouvement, il est mort.
De ouf.
Voilà, et du coup, c'est là que j'ai pris la décision. Et maintenant, carrément, des fois, je vais même pas en intervention pour récupérer des gosses, par peur qu'on me reconnaisse. Parce que ce qu'on a découvert une fois que j'ai été médiatisé, c'est que j'ai ma photo qui tourne sur des sites de pédophiles en disant que si on me voit, c'est un danger. Imagine-toi. C'est-à-dire que maintenant, dans leur groupe,
voilà. Ils ont un truc. Attention, lui, c'est le chasseur de vampires, quoi. T'es Blade, mais des pédophiles.
C'est ça.
Donc, c'est un truc de ouf.
Donc, il y a ma photo à moi et la photo de Max de Wanted Pédo, qui est le plus gros collectif de chasseurs de pédophiles en France, qui est un pote à moi. Et lui aussi, il est affiché sur ces sites-là. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, l'équipe d'intervention de la LDA, la plupart du temps, maintenant, elle y va sans moi, quoi, parce qu'on n'a pas le choix. Je ne peux pas me montrer, je ne peux pas... C'est de plus en plus dur.
Bravo, comme je t'ai dit, hein, franchement, merci. Et bravo à tous les gens aussi qui travaillent avec toi. Ouais. J'ai vu dans ton histoire, parce qu'on va repartir aussi sur ton histoire quand même, Cassandra. Ouais. Tu la nommes souvent.
C'est ça. Cassandra et Jean-Christophe Tétèche.
Tétèche, exactement. Ils ont fait un travail d'expert là. C'est les experts à Miami. Mais
Cassandra,
à Manhattan.
Cassandra, elle peut être, entre parenthèses, c'est une de ces fouines. Elle peut être employée par le FBI facilement. Franchement, oui, c'est une fouine de fou.
Parce que pour rappeler Cassandra, pour retrouver ta fille, ouais. c'est elle, sur les réseaux qui a retrouvé le profil de la personne qui avait enlevé ta fille.
Je lui ai même pas posé la question comment elle a fait parce que c'était tellement compliqué tout ce qu'elle a fait. Ça veut dire que même quand eux, je les envoyais se reposer parce que j'étais le seul à être réveillé pendant les 2 jours et demi, il y avait des gens à qui je disais allez vous reposer. Et en plus, tu sais, je jonglais entre les équipes. J'avais les équipes de recherche gentilles, j'avais les équipes dures. Tu vois, je pouvais pas les mélanger parce que les durs, c'est des mecs de la street, c'est des gens qui ont, je vais pas dire rien à perdre, mais c'est des gens, ils peuvent aller au charbon facilement, tu vois. Et eux, ils peuvent risquer la prison pour toi. Tu vois, c'est des gens avec qui tu dois en avoir quelques-uns autour de toi, tu sais que tu les appelles, tu dis j'ai tué quelqu'un sans faire exprès, que tu peux venir, il va venir tout de suite.
Ouais.
Et du coup, et Cassandra et Tetush, je faisais des fois exprès de les faire rentrer chez eux pour pas les mêler à tout ça parce que c'est des gentils, c'est pas des méchants, tu vois. Donc je voulais pas qu'ils rentrent dans ce truc-là où ils vont risquer quelque chose. Mais ils ont été énormes et c'est eux qui ont fait le plus gros travail de recherche. Moi j'étais vraiment dans le côté très sombre.
Terrain, ouais. Des œillets, on fonce. Et Cassandra justement quand elle a retrouvé le profil, c'est-à-dire elle est partie sur Facebook, c'est ça il me semble.
Facebook, sur Instagram.
Ouais, Facebook, ou Insta, ouais. Voilà. Elle est partie, elle a regardé plusieurs profils, elle s'est dit ah ouais lui, etc. Et elle a retrouvé
elle a retrouvé son Instagram à lui. Et en plus lui contre son Instagram, il y a des écritures sataniques dessus. Tu sais, des écritures sataniques, des phrases.
Un truc d'Illuminati là.
Voilà, satanique, avec un calendrier satanique sur en story, des trucs un peu bizarres, tu vois. Et du coup, c'est là qu'on a commencé à. Elle a commencé à faire des recherches, etc. etc.
C'est le Da Vinci Code.
Ah, laisse tomber. Laisse tomber, on s'est cru dans un film. Franchement,
je suis choqué. Mais je te jure, c'est que ça, c'est un film ça.
Écoute, pour la nouvelle, tu vas être le premier à être au courant. Donc, du coup, j'ai signé l'adaptation de l'histoire.
Ah.
Voilà, avec Bonne Pioche Production.
Félicitations.
Ouais. Et du coup, là, on commence le tournage. Ce sera diffusé sur M6 cette année.
Bravo.
Ouais.
Ça s'applaudit, ça s'applaudit. Franchement.
Merci beaucoup.
Lourd.
Et le truc qui est super lourd, c'est que tu sais, j'avais un footballeur quand j'étais jeune que j'idolâtrais.
Que tu kiffais, quoi.
Je kiffais de ouf. Ouais. Parce qu'il a toujours été. J'ai toujours été comme lui. Vraiment anarchiste et tout. Et c'est lui qui va jouer mon rôle dans la série. C'est Cantona et c'est Eric Cantona qui va jouer mon rôle et franchement
bravo. Franchement
je peux dire que c'est une dinguerie, même s'il est marseillais je lui en veux pas.
Ouais, moi aussi. Mais c'est juste son côté marseillais, voilà. Et mancunien aussi parce que je suis plus pour Arsenal, mais vas-y tranquille. Ouais. Ça bouge pas. Le col remonté.
Ça, t'as tout compris.
Tu mets les high kicks, voilà. Et c'est bon. On te pardonne.
Donc du coup tout ça, ça s'est fait grâce à une femme qui s'appelle Vitarda Beauville, qui travaille chez Bonne Pêche Production, qui avait travaillé chez Epsis avant.
Ok.
Et du coup, elle a pu faire la connexion, on a signé. Cantona, il est super content du truc. Donc du coup, c'est ça qui est top. Et je commence le tournage avec lui le 17 janvier là. On va tourner. Je vais le rencontrer pour la première fois et je peux te dire que c'est quelque chose, quoi, tu vois. C'est quelque chose pour moi, donc...
Tu sais, quand on fait les choses, tu vois, voilà, avec le cœur, les choses bien, tout vient après. C'est Dieu qui donne, comme on dit, tu vois. Et voilà, et là, ce que tu fais pour les gens, tu vois, c'est toutes les prières, parce que tu sais très bien, toutes les prières des gens, leur fille que t'as retrouvée, peut-être que tu le vois pas, mais tous les trucs qu'ils font dans l'ombre pour toi, tu vois, et c'est là où
mais,
ça...
Mais tu sais, il y a un truc qu'il faut savoir, et que moi, je dis souvent autour de moi, mais pas beaucoup en interview, c'est vrai. Moi, le seul truc qui m'a fait tenir depuis que je suis tout petit, parce que moi, je suis un enfant d'Algérie, je suis un enfant du terrorisme. J'ai grandi avec le terrorisme en Algérie, donc du coup, j'ai vu des choses qui pourraient briser beaucoup de monde, tu vois. Et quand je suis arrivé en France, j'ai vraiment vécu le racisme à fond. Quand j'arrive en France, moi, tu sais, quand j'habite en Algérie, quand je voyais la France, c'était Aznavour, c'était Coluche, tu vois.
Ouais.
Je suis arrivé en France, c'était Maigret et Le Pen, quoi. Tu vois, c'était tu vois un peu le changement que c'était, parce que c'était pas du tout la même chose. Mmh. Et pour les jeunes de maintenant, Maigret et Le Pen à l'époque, c'était Zemmour de maintenant, quoi, tu vois.
Exactement.
Pour qu'ils comprennent un petit peu le Maigret de l'époque. Mmh. Et du coup, moi, ce que je dis tout le temps, ça a été entièrement ma foi, et aujourd'hui, c'est encore le cas, qui me fait avancer. Tout ce qu'on voit, nous, à la LDA, aujourd'hui, par exemple, à la LDA, il y a énormément de monde qui sont venus chez nous et qui sont partis parce qu'ils ne pouvaient pas supporter ce qu'ils voyaient. Tu vois, quand tu récupères un gosse, et on a récupéré une gosse une fois, elle a 14 ans, elle est restée pendant pratiquement 6 mois dans un réseau de prostitution. Quand on a retrouvé le registre, parce que les mecs, ils tenaient un registre et des comptes.
De qui était passé
Le nombre de clients qu'elle a eu par jour, ce qu'elle leur rapporte, ils se sont crus dans un film, ils ont fait des statistiques et tout, tu vois. Et en pratiquement 6 mois, elle a eu plus de 600 clients. Et forcée. Droguée, tout ça, violentée, frappée. Elle a eu plus de 600 clients. Ça veut dire qu'imagine-toi qu'il y a 600 mecs, ils ont payé pour violer, entre parenthèses, une gosse de 14 piges.
Et quand on est père, justement, ou mère, et qu'on retrouve sa fille comme ça, comment ils réagissent, les parents?
Il y a des divorces, déjà. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de divorces à cause de disparition. Ah ouais, bah oui. Des fois,
c'est ta faute, et c'est ça? Ils se remettent la faute?
Déjà, ils se remettent la faute sur eux, et c'est dans ces moments-là que tu vois, est-ce que vraiment la personne qui est avec toi, elle tient la route aussi, hein. Attention. Moi, j'ai eu des mamans, elles m'ont dit, c'est pas normal que ce soit vous qui allez chercher mon enfant alors que j'ai un mari, quoi. Mmh. Tu vois le délire? Mmh. Parce que moi, par exemple, moi, quand ma fille a disparu, je suis pas rentré chez moi, gros. J'ai senti le fennec à la fin. J'ai senti le dragon sacré. Mmh. Mmh. Mais il y a des parents, ils dorment.
C'était Game of Thrones.
Mais gros, eux, ils dorment. Des fois, j'appelle un parent parce qu'on a retrouvé le son gosse. Il dort. Je sais pas comment il fait. Comment toi, ton gosse, il est dort, tu sais pas dans quelle situation il est. Moi, quand ma fille a disparu, j'étais dans un délire de ouf. Est-ce qu'elle est pas dans un squat avec des drogués qui sont en train de la violer? Tu passes des trucs de ouf. Est-ce qu'elle est pas en train de se faire découper par un malade mental? Est-ce qu'elle est pas morte? Est-ce qu'elle s'est pas fait égorger? Il y a plein de trucs qui te passent par la tête. Tu peux pas dormir, c'est impossible.
Et après, justement, les parents, après, quand ils retrouvent leur fille, voilà, ils savent que, voilà, elle s'est fait violer, que truc.
Il y en a, ils rejettent leur gosse.
Ah ouais?
Ouais. Et il y en a, ils sont soulagés, quoi. Mais moi, j'ai vu des parents rejeter leur gosse parce qu'ils ont su qu'elle a été violée. Ou il s'est fait violer, parce qu'il y a des mecs aussi qui sont violés. Attention, il n'y a pas que des femmes. Il n'y a pas que des jeunes filles. Et des fois, t'as un rejet. Surtout du père.
Ah ouais.
Ah ouais, gros. Après, attention, après, on peut pas se mettre dans la tête de tout le monde, mais quand ta gosse, parce que des fois, il y a des gosses, elles se sont fait violer, entre parenthèses, parce que, elles sont parties voir des mecs, ou elles ont répondu à, parce que la plupart du temps, les mecs, ils font quoi?
Ils les appâtent.
Les appâtent sur les réseaux sociaux. Par exemple, t'as une meuf, elle va parler avec un mec sur un réseau social, blabla, nanani tout, on se voit, on se rencontre, etc. et tout, ils vont manger ensemble, le mec, il va lui dire, attends, viens, vite fait, faut que j'aille voir un pote à moi, je vais te déposer un truc. La meuf, elle fait confiance, elle a un fond, elle est dans le love to love, tu vois. Et le mec, il est tout doux. Arrivée dans l'appartement, elle se fait taper dessus, ils vont la violer, ils vont la droguer, ils vont la prendre en photo, prendre toutes les informations sur elle. Et une fois qu'elle revient au bout de quelques jours, ils vont lui dire, écoute, on a tout. On a ça. Si tu fais pas ça pour nous, ben, on va chez toi, on va tuer tout le monde chez toi. Et la plupart du temps, ils vont viser des meufs qui n'ont pas grandi dans des quartiers. Tu vois, ils vont prendre des meufs qui ont grandi dans des petites banlieues tranquilles ou qui habitent en paftar, elles connaissent pas la street. Parce que quand tu vas prendre une meuf de quartier qui connaît la street,
elle a des frères, elle a des trucs sauvages, des gens, en tout cas, même des connaissances.
Même elle dans sa tête.
Ouais, même elle. Ouais.
Elle est street. Donc c'est plus dur à dompter une femme qui est street qu'une femme qui connaît pas, qui va être entre parenthèses impressionnée dès que tu vas lui dire qu'est-ce qu'il y a, tu vois.
Donc, mais tu vois, voilà, tu parles de ça, mais ta fille, par exemple, comme tu disais, c'était un garçon manqué,
Mais le mec qui l'avait enlevé, il était vraiment, il était costaud.
Ouais.
Il était pas balèze, il était gros, mais il était costaud.
Ah.
Elle a pas vu le... Déjà, à la base, tu sais, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai retrouvé ma fille, j'en ai jamais parlé avec elle.
Ah ouais?
Ouais, ce souvenir-là, je l'ai laissé, on en a parlé avec ma femme, on en a parlé un petit peu, mais du moment où je savais qu'elle a pas été violée, déjà, c'est bon pour moi. Tu vois, après ce qui s'est passé pendant, moi, j'ai pas voulu avoir ce truc-là de parler avec elle de ça. Peut-être c'est une crainte personnelle de ma réaction à moi, je sais pas, tu vois, mais le comment ça s'est passé, tout ça, nanani tout, j'ai jamais demandé parce que le plus important pour moi en ce moment, c'est d'avoir retrouvé ma fille. Je l'ai retrouvée, elle est en sécurité, elle est en bonne santé, il lui a pas fait du sale. Après, moi, ce que j'ai fait,
parce que t'es arrivé à temps.
Bien sûr. je suis arrivé à temps.
Parce que t'as pas attendu après la justice et la police de se poser, de se dire bah vas-y. Parce qu'en vrai de vrai, la réaction normale d'un Français. Parce que toi, on parlait de la street. Nous, la street, on n'est peut-être pas considéré comme logique et normal, on va dire.
Nous, on est un état dans l'état.
Voilà, exactement, tu vois. Si on est une personne, comme ils disent, normale, voilà, lambda, on va au commissariat. Pour nous, on a déposé plainte ou avis de recherche.
C'est leur travail,
c'est bon.
On
a vu le mec taper un truc, donc l'avis de recherche est lancé. On rentre chez nous et on attend.
Ouais, c'est ça.
Normalement, que la police nous appelle. Voilà, que la police appelle les trucs. Toi, tu l'as pas fait, t'as pris le truc. Quand justement, Cassandra truc, tu vas jusqu'à dans les Vosges, c'est ça ?
Ouais, c'est
ça. Tu vas jusqu'à dans les Vosges. Mmh. Et j'ai vu que tu disais, quand je suis rentré dans l'appartement, parce qu'il avait frappé sa mère, était dérangé.
Ouais, il était dérangé, il était sous cacheton lui. Voilà. Schizophrène et était sous cacheton.
Il habitait dans un foyer, enfin il était en foyer.
À la base, il habitait dans un foyer, et après, ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu voir sa mère, il l'a frappé, il l'a foutu à la porte. Sa mère, elle est partie au commissariat pour truc, ils lui ont dit, lui qu'on fasse quoi ? Tout simplement. Donc, du coup, elle se fait jeter de chez elle, mais en plus, eux, ils font rien du tout. Donc, du coup, c'est là que ça s'est un petit peu. C'était un peu space, quoi, tu vois. Maintenant, en gros, c'est là qu'on peut se faire jeter. C'est là que moi, je suis chez moi, j'ai mon fils qui pète un câble et qui me jette de chez moi. Bah, je reste à la rue.
Tu restes à la rue. Et ils vont même pas voir si ton fils. Et après, donc, tu vas au commissariat de là-bas aussi, vers là-bas. Là,
j'y vais même pas, je les appelle. Quand je sais que c'est sûr, Astin, qu'elle est là-bas. J'appelle le commissariat d'Épinal et je leur dis à 9h du matin, je me rappelle très bien, il était 9h du matin pile poil, je les appelle et je leur dis voilà, je suis sûr que ma fille elle est à tel endroit, chez monsieur un tel et tout. Et le flic me dit au téléphone, en plus on le connaît, il est connu de nos services pour des faits de violence et compagnie. Je dis écoutez, voilà, il a séquestré ma fille donc il faut y aller tout de suite quoi. Ils m'ont dit ok d'accord, on va envoyer une patrouille. Il m'appelle à 9h30 pile poil. Le mec il m'appelle, il me dit écoutez, on a envoyé une patrouille, ils ont frappé à la porte, il y avait personne, ils sont repartis. Voilà, et à ce moment-là, j'appelle Cass et Totoche, je leur dis, écoutez, voilà ce qu'ils m'ont dit. Moi, j'y vais, ils m'ont dit, on arrive. Du coup, Totoche, il voulait pas que je prenne ma voiture, il m'a dit, on prend la mienne, c'est mieux. Parce qu'il avait peur que je roule trop vite non plus, que je parte un peu en vrille. Du coup, il a pris sa voiture et on est parti, quoi. On est parti directement et après, on a retrouvé ma fille, je l'ai ramenée à Paris. Alhamdoulilah, aujourd'hui...
Et j'ai vu, après, quand t'y vas, tu retrouves dans les chambres des araignées, des bocaux.
En gros, il y avait des bocaux. En gros, moi, quand je suis rentré, je me suis occupé du mec directement. Donc, Cassandra, elle est partie dans la chambre. Elle a récupéré ma fille dans une pièce sombre. Il y avait de la nourriture par terre. Ça sentait le mort à l'intérieur de la chambre. Et du coup, elle sort, elle sécurise ma fille. Elle l'emmène directement dans la voiture. Et Totoche, il était en train de faire un peu le tour de la maison pour voir un petit peu ce qu'il y avait, etc. Et tout. Et quand il rentre dans la chambre où ce qu'on a trouvé, il y avait des bocaux avec des araignées à l'intérieur. Chaque bocal, il avait des araignées différentes dedans. Tu vois, il faisait collection d'araignées. Et après, il va dans la cuisine et il trouve, tu vois, il y avait un plan de travail à peu près comme ici, là. Et t'avais les couteaux, une quarantaine de couteaux, tous posés en vrac, tu vois. Mais les couteaux, c'était abusé. Et quand j'ai pris son téléphone et que j'ai fouillé dedans, on a trouvé un calendrier satanique dedans. Et d'après le calendrier satanique, il devait saigner une jeune vierge 2 jours après qu'on soit arrivé, quoi. Tu vois le délire? Donc, je savais pas trop dans quel sens saigner la jeune vierge. Est-ce qu'il fallait la tuer ou autre chose? Mais je savais pas ce qui se passait un peu dans sa tête. Parce que moi, quand je suis parti de là-bas, il était pas dans un très bon état. Donc,
Et tu lui as posé des questions?
Qui ça?
À l'agresseur, là, je sais pas. Pas le temps. On appelle ça. Ouais.
Non, pas le temps. Non. Non, quand je suis rentré, il me dit attendez. Ouais. Tu me parles de quoi? Attendez de quoi? Tu t'es cru dans un film? Attendez. Toi, tu fais une connerie demain, le mec, il va dire attendez. Tu vas lui dire attendez, mec. Ah non, gros, tu l'attrapes, tu le montres.
Mais ils sont malades, ces gens-là, quand même.
Mais ils sont plus que malades. Mais après, c'est.
Attendez.
C'est la société donc, dans laquelle on vit, frère.
Prends ma fille, tu la séquestres et tu me dis attendez.
Non, mais c'est dans
c'est pas ce que vous croyez.
Regarde, on vit dans une société qui est comme ça. Aujourd'hui, t'as des mecs quand même à la télévision qui sont super racistes, ils disent ce qu'ils veulent. On est d'accord. Personne ne leur parle, ils sont invités dans les plus gros plateaux. Donc aujourd'hui, tu peux pas. Les jeunes de maintenant, ils sont éduqués comme ça. Là, il y a pas longtemps, il y a un mec sur Internet qui est connu, je crois qu'il s'appelle Mohamed Patron, je crois. Sa voiture, elle est en train de se faire fracturer. Il reçoit un message sur son téléphone qu'on allait fracturer le véhicule. Il descend dans son garage, il trouve le mec en flagrant délit avec une machine en train de démarrer sa voiture. Lui, il a son chien, il dit, ouais, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, comment ça, qu'est-ce que je fais? Il a dit, vas-y, casse-toi d'ici. c'est ma voiture et tu me dis casse-toi d'ici. Tu vois déjà le truc. Et ah après, ouais, quand il comprend que c'est le propriétaire du véhicule, parce qu'il pensait pas que c'était le propriétaire du véhicule, il dit non, je me suis trompé. Il commence, le mec, il commence à rigoler. T'as un mec en face de toi avec un chien et tu rigoles. Le mec, moi, le patron, là, il prend le petit, il le sort dehors, il appelle la gendarmerie, il leur dit venez, je l'ai attrapé et tout. La gendarmerie au téléphone, tu l'entends, elle lui dit quoi? Elle lui dit, vous êtes obligé de le relâcher. Incroyable. Tu attrapes le mec en flagrant délit, là, il a niqué ton portail, il a niqué ta voiture.
Incroyable.
Tu l'attrapes, les flics, au lieu de te dire vous avez bien fait, merci, on arrive, ils te disent non, vous êtes obligé de le relâcher. T'as vu ça où, toi?
Le monde part en couille, je te jure. En tout cas, la France. La France, France, elle est.
On est très bien loti pour le départ en couille, bien comme il faut. Hein.
Pour parler. Après, justement, ton sentiment, c'est voilà, soulagement. J'ai retrouvé ma fille, merci, au revoir. C'est bon, je veux plus.
À ce moment-là, ouais. Ah ouais, non, non, à ce moment-là, tu sais, en gros, ce qu'il y a, c'est que pendant toute la disparition de ma fille, j'étais pas fatigué. Quand je suis rentré dans la voiture, parce que je suis rentré à l'arrière, ma fille, elle était sécurisée à l'arrière. Donc, du coup, il y avait Tétoche et Cassandra devant. Je suis monté à l'arrière. Et c'est qu'à ce moment-là que je l'ai pris dans mes bras, tu vois, dans la voiture, retour. Quand je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré. La première phrase qu'elle m'a dit, elle m'a dit, je sais que t'allais venir. Je sais que t'allais me retrouver. Donc, d'ailleurs, cette phrase-là, elle m'a marqué depuis, tu vois. Elle m'a dit, je sais que t'allais me retrouver. Et j'ai une fatigue qui est arrivée. C'était la première fois de ma vie où j'étais fatigué comme ça. Tu vois, j'ai une fatigue, mais elle est tombée d'un coup. Boum! Le téléphone m'a. Ma femme, ma mère et tout, ils m'appelaient parce que bon, je les avais prévenus.
Oui, pour savoir comment.
Pour avoir des nouvelles, pour que je leur passe la petite et tout. J'arrivais pas à tenir mon téléphone avec mon bras. Je le tenir comme ça, là, j'arrivais pas. La fatigue, elle arrivait d'un seul coup. La faim, la même chose. J'ai pas mangé pendant 2 jours et demi, pratiquement 3 jours. La fatigue, la faim, tout est venu d'un seul coup. Mon corps, il m'a dit, oublie pas. N'oublie pas, je suis là. Tu vois? Mais.
Et ta fille, t'en as parlé avec elle, comment elle a vécu ce moment-là? Pas de ouais, comment ça s'est passé, mais comment elle a vécu, comment...
Pas énormément. Je n'ai pas parlé énormément avec elle parce que je sais qu'il y a des choses qu'elle voulait pas me dire. Ouais. Après, moi, tu sais, je suis le fils d'un psychanalyste à la retraite. Mon père est psy à la base. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que lui m'a donné des conseils aussi, hein, tant que psy. Il m'a dit qu'il faut laisser un petit peu de temps, laisse plutôt ta femme lui parler, etc., etc., quoi, tu vois. Donc, j'ai suivi vraiment ses conseils à la lettre parce que, bon, c'est lui le professionnel, comme on dit, entre parenthèses, par rapport à le après. Et du coup, je sais qu'il y a des choses qui ont été changées avec ma femme, mais moi, j'ai pas voulu rentrer dans ce truc-là. Parce que tu sais, moi, du moment que ma femme, elle était arrivée dans ma vie, elle a pris ce rôle de maman. Vu que la petite, elle avait pas sa mère dans sa vie, elle avait pris ce rôle de maman, et moi, je lui ai vraiment laissé la place d'être une maman pour elle aussi. Pour pas qu'elle soit délaissée par rapport à mes autres enfants, parce que j'ai des autres enfants à côté, et je voulais pas qu'il y ait une sorte de différence qui soit mise faite entre mes enfants avec ma femme et elle, tu vois. Et du coup, je l'ai vraiment laissé prendre. En plus, ma fille, quand ma femme est arrivée dans ma vie, ma fille, elle avait 8 ans. Donc, du coup, ça va, c'était encore. Elle pouvait encore entrer par la petite porte et s'installer un petit peu, tu vois. Elle sait que c'est pas sa mère, mais.
Oui.
Voilà. Donc, du coup, j'ai vraiment laissé ce truc-là entre elles. Tu vois, j'ai pas voulu m'en mêler. Et aujourd'hui, il y a la vraie histoire, entre parenthèses, le vrai cheminement, tout ce qui va avec. Moi, de ce que j'ai su par rapport à l'enquête qu'on a faite, ok. Mais par contre, elle, comment elle a vécu ça, je lui ai jamais posé vraiment la question. Mais par contre, je l'ai vu dans son comportement. À ce moment-là, elle jouait au foot, elle a arrêté, radical. Le dessin, elle dessine super bien. À l'époque, on avait un projet de créer un manga tous les deux, tu vois. Donc elle devait s'occuper de tout ce qui était dessin, ouais, création. Dessin. Ouais. Et moi, j'allais trouver un éditeur et faire le truc, quoi, tu vois. Et même ça, elle l'a lâché. Ses dessins avant, ils étaient vraiment très manga, colorés.
Ouais.
Mais après, par la suite, c'était des mangas vraiment très sombres, noir et blond, tu vois. C'était, donc j'ai vu des fragments comme ça qui ont changé. Elle était un peu plus nerveuse qu'avant aussi. Elle était un peu, et du coup, on a fait un travail de longue haleine qui a payé par la suite. Donc maintenant, elle a eu son bac.
Alhamdoulilah,
elle est rentrée dans une école d'architecture. Elle a déménagé et tout ça. Ça y est, elle est majeure. J'étais pas prêt. L'année dernière, je me suis mangé un combo 26. L'année dernière. Je me suis mangé le bac, la majorité, le déménagement. Ah, c'était très très dur. À 2022 là, c'était
chaos direct.
On sort du Covid, je me suis mangé une autre baffe direct. Donc du coup, ce comportement il a changé. Mais après, tu sais, avec les gosses qu'on retrouve, je le vois ce changement aussi. Hein. C'est pas propre juste à ma fille. Alors imagine-toi les gosses qui ont eux se sont fait
violer. Bah ça les marque, c'est sûr. Ouais, ça doit être.
Bah, ils sont marqués à vie. Après, tu sais, nous, à la LDA, on a 6.
C'est ce que j'allais dire.
On a 6 unités.
C'est ce que j'allais te poser comme question.
Voilà, on a 6 unités. Au début, on n'était pas aussi bien organisé que maintenant, mais maintenant, depuis un peu plus d'un an, on est très bien organisé. Donc, du coup, on a 6 unités. La première unité, c'est celle qui va ramener, qui va recevoir les avis de recherche et les diffuser sur Internet. Donc, du coup, il va faire le travail de communication. T'as la deuxième équipe qui est celle d'investigation, qui va aller sur Internet pirater des réseaux de disparus, voir un peu les commentaires, voir un peu les gens qui sont arrivés depuis à peu près 4 mois, 5 mois. On remonte à peu près dans les 4 mois de la plupart du temps. Une fois qu'eux, ils ont des indices, on a la troisième qui va aller sur le terrain pour aller vérifier les indices. Une fois qu'on sait que l'enfant, sûr et certain, est dans un endroit précis, t'as l'équipe d'intervention qui va intervenir pour récupérer le gosse. Après, on a la cinquième cellule qui, elle, peut intervenir au début avec la famille et qui peut prendre une prise en charge de la famille et de l'enfant une fois qu'on l'a retrouvé, c'est la cellule psychologique. Et là, depuis 6 mois maintenant à peu près, on a la sixième cellule qui est la cellule juridique. Maintenant, on a des avocats, on a un juge, on a des magistrats, on a 2 juristes qui travaillent spécialement pour protéger la LDA. Et ça, avant, on l'avait pas, tu vois. Ça fait que 6 mois qu'on l'a.
Faut la protéger. Quand tu dis la protéger, déjà, bravo pour toutes ces cellules, ouais. Parce que franchement, c'est, bon, tout est fait petit à petit, mais c'est bien de structurer les choses, surtout quand on est en France, parce qu'après, on peut avoir justement des problèmes. Tu me disais par rapport aux juges, aux avocats, ouais. Pourquoi il y a eu des problèmes au niveau de ce collectif?
Ben, le problème,
vous
c'est
voulez le dissoudre.
Déjà, moi, à la base, j'ai eu beaucoup de menaces de certains policiers. Déjà, faut le comprendre. Parce qu'il y a des flics qui se sont tapés sur les doigts parce qu'on fait le travail mieux qu'eux. Ça, il faut le savoir. D'accord? Retrouver autant d'enfants en si peu de temps, entre parenthèses, c'est juste un truc qui n'est pas donné aux flics. Ils retrouvent pas autant d'enfants, les flics. Il faut dire les choses comme elles sont. Et du coup, par la suite, il y a des flics qui m'appellent, qui me menacent au téléphone, qui font pas mal de choses. Et maintenant, vu que ça commence à prendre une très grosse ampleur, le mouvement, je ne veux pas que, si on l'ouvre demain, on se fasse attaquer en justice pour des... En gros, entrave à une enquête en cours, les trucs comme ça, etc. Et tout. Pour pas se faire attaquer, du coup, il a fallu que je m'entoure de certains avocats, entre parenthèses, pour pouvoir déjà créer des statuts solides pour l'association, pour pas qu'on soit attaqué, parce que, officiellement, on n'a pas le particulier ou une association n'a pas le droit de rechercher des disparus. Donc, du coup, on est passé de collectif de recherche d'enfants disparus à association d'aide aux familles de disparus. Donc, il fallait avoir certaines positions juridiques pour se protéger. Et comme je t'ai dit maintenant, une grosse machine est lancée, parce que hormis la série, j'ai signé chez Michel Lafon, il y a mon livre qui sort en mois de mars.
Ah, félicitations, faudra revenir pour,
le livre, bien
pour
sûr.
La promotion du livre.
Je t'en ramènerai un pour toi.
Bah, avec plaisir, franchement.
Et du coup, même par rapport au livre, par rapport à ce que moi j'ai dit dedans, il a fallu se protéger, il fallait voir aussi, parce que des plaintes peuvent remonter facilement. Parce qu'en France, des procureurs peuvent déposer plainte contre toi, ils peuvent te traduire en justice, même s'il n'y a pas de plaignant. Ça, il faut bien le savoir. Ça veut dire que c'est possible. Et je ne veux pas, justement, parce qu'on dérange tellement de monde, je ne veux pas donner le bâton pour se faire taper dessus. Donc, c'est pour ça que je me suis entouré de ces avocats-là. Et maintenant, les gens savent très bien que si quelqu'un s'attaque à la LDA, ben, y a une armée d'avocats derrière qui, en gros, j'ai...
T'as structuré le truc.
Pour tout dire simple, dans ma vie, chaque fois que j'ai pas réussi à avoir quelque chose, j'ai fait en sorte de le devenir pour l'avoir. Quand j'ai pas réussi à tourner dans des films, parce qu'on proposait toujours la même chose, hein, voyou, flic, etc. et tout, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai travaillé des années gratuitement dans des tournages pour devenir réalisateur. À l'époque où j'étais dans la musique, parce que je suis dans la musique depuis très très longtemps, c'est pour ça que je te dis, je parlais de génération de tout à l'heure. Tu vois. Et quand je pouvais pas, entre en parenthèse, enregistrer parce que j'avais pas les moyens, bah, j'ai fait ce qu'il fallait pour ouvrir mon propre studio d'enregistrement. Quand j'avais du mal à trouver des ingé-sons pour venir enregistrer, je suis parti apprendre gratuitement chez des potes à moi à devenir ingé-son pour enregistrer mes morceaux et les morceaux des gens qui étaient autour de moi. Tu vois, il y a 2 ans de ça, j'arrivais pas à atteindre certains médias, bah, j'ai lancé mon propre magazine. Dans ma structure Boza, on a Boza Mag, c'est notre propre magazine. Il sort tous les mois, c'est un mensuel. J'ai mon propre magazine. Là, avec Seb, celui qui m'accompagne là aujourd'hui.
Grosse dédicace à Seb.
Voilà, Seb.
Ensemble.
C'est le frérot, c'est vraiment, comme ils disent en Marseille, le sang. Comme
c'est le
dit.
S.
Là, on lance simultanément, au mois de février, le Comedy Club de chez nous et le théâtre. Simultanément. Là, cette année, en dehors du tournage, je tourne mon premier long métrage au mois de juin, d'un film qui tourne un petit peu autour du futsal et des migrants. Donc, je tourne mon premier long métrage. Cette année, on lance la première édition de notre festival du court métrage, le 1er et 2 juin. Donc, tu vois, on a tout ce que je n'avais pas accès à avant. 2023, j'en profite pour tout lancer parce que je profite de la grosse communication qu'il va y avoir autour du livre, de la série et tout. Et on balance tout. On a la radio qui va ouvrir. On va avoir la chaîne télé qui va ouvrir. Là, ils sont pas prêts pour ce que je vais faire. Ils m'ont mis dans les mains un savoir qu'il fallait pas me donner.
C'est ce que je disais. C'est ce que je dis souvent. Dans la vie, quand on veut pas de nous, il faut faire les choses soi-même et être son propre patron. Tu sais, je le dis souvent. Tu vois, tu parlais de film ou pas. C'est la même chose. Moi, je suis sur une série. C'est la vie, elle est comme ça. Ouais. Si on veut pas de toi quelque part,
fais-le.
Fais les choses toi-même. Et si tu plais, on t'appellera parce qu'on t'aura vu dans ton propre truc et on te dira voilà, on t'appelle parce que je t'ai vu là-dedans. Donc voilà, c'était franchement bravo, beau message aussi. Si t'avais quand même un message, un mot de la fin, quand même à passer pour n'importe lequel, le mot que tu veux. Voilà, c'est...
Un partage ne coûte rien mais peut sauver une vie. C'est le slogan de la LDA. Donc peu importe le nombre de followers que vous avez sur les réseaux sociaux, il suffit qu'une personne voit un disparu qui nous prévienne pour qu'on aille le retrouver. Donc tout ce que j'ai à dire, c'est aller sur Instagram, aller sur tous les réseaux sociaux, on y est partout. Vous tapez juste LDA, les disparus anonymes. Rajoutez, partagez un max. Si vous voulez faire des dons, c'est les bienvenus parce que le truc qu'il y a, c'est que depuis qu'on a pris de l'ampleur, on a beaucoup plus de signalisation de disparus, donc il a fallu qu'on divise beaucoup les équipes et ça coûte de l'oseille. Donc il faut plus de véhicules, il faut payer les assurances des véhicules, il faut payer le coco, il faut payer à manger à ces gens-là qui chargent des enfants. Et aujourd'hui, malheureusement, on a besoin d'aide financière, donc tous ceux qui veulent aider sont les bienvenus.
Justement, j'allais te poser la question, comment on fait pour adhérer justement à ce collectif-là si on veut rentrer dans le collectif et aussi pour donner des dons, comment on fait?
Alors, la première chose déjà, il faut bien que je prévienne tout le monde. Le truc qu'il y a, c'est que pour rentrer à la LDA aujourd'hui, c'est pas une association normale. Ça veut dire que toutes les personnes qui veulent rentrer officiellement à la LDA et aider, j'ai leur pièce d'identité et je vérifie tout sur eux. Donc, il y a une recherche approfondie parce qu'on a déjà été infiltré par des pédophiles. On a retrouvé. Tu vois, donc du coup, maintenant, on ressort tout. Et j'ai pas besoin d'autorisation. Il me faut une pièce d'identité. Je sors le casier judiciaire. Je sors même le casier judiciaire de son grand-père. C'est pas un problème pour moi, tu vois. Donc, je peux aller vraiment sur tout, vérifier tout sur la vie de la personne. Donc, faut pas trop que ces gens-là viennent chez nous. Parce qu'ils vont être bien accueillis. Et après, pour les dons, c'est très très simple. Il faut aller juste sur Instagram. Dans la bio, il y a le lien. Et l'OASO, et du coup, ils peuvent faire le don directement là-dessus. Après, ces gens, ils veulent donner de l'espèce parce qu'ils aiment pas trop mettre leurs identifiants. On est sur deux villes, on est sur Bobigny et Drancy pour l'instant, et bientôt sur l'île Saint-Denis, tout va bien. Donc, du coup, les gens, ils peuvent directement venir à notre rencontre. Et aussi, on fait aussi de la prévention. Ça veut dire que, on est prêt à venir intervenir dans un foyer, dans un quartier, dans une école, avant que la connerie arrive. Avant que la bêtise arrive. Donc, s'il y a des parents qui ont des problèmes avec leurs enfants, on peut très bien intervenir avec eux pour voir comment gérer le truc, comment éviter qu'il y ait une fugue ou qu'il y ait un truc qui peut aller très très loin parce qu'on a beaucoup malheureusement de jeunes maintenant qui sont dans la prostitution à fond. C'est un des plus gros fléaux qui nous touche actuellement, c'est la prostitution des mineurs. Et t'as beaucoup de mineurs par manque d'argent ou parce qu'il y a des disputes à la maison ou peu importe les raisons, elles rentrent dans des réseaux d'elles-mêmes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus gros travail qu'on doit avoir parce que une fille qui a 12 ans, 13 ans, qui vonce encore pour de l'argent, c'est pas normal. Et merci. Le pire, c'est les clients, quoi.
Ouais, c'est sûr. Merci. Voilà. Quand même, t'es dans la réalisation, tu m'avais dit.
Exactement.
T'as jamais pensé à faire une série justement autour de ça? Une vraie série, tu sais, faire des épisodes, on recherche, tu sais, comme, parce qu'il y a ta Cassandra, tu sais, ça me fait vraiment penser aux experts, tu vois, tac, tu mets des Cassandra, comment elle fait les recherches, tac, tout ceci. T'as jamais pensé, ça peut être une série réalité qui peut vraiment être très intéressante.
Je vais t'expliquer rapidement pourquoi je le fais pas tout de suite, parce que il y a quelques années de ça, j'avais fait un court-métrage, et quand j'ai sorti ce court-métrage-là, c'était sur l'endoctrinement, tu vois. Quand j'ai sorti le court-métrage, ça avait fait un peu de bruit, etc. et tout, et du coup, je reçois un courrier m'interdisant de le diffuser. Tu vois? procureur, nanani et tout, interdiction de le diffuser quand je demande pourquoi, parce que ça peut atteindre, ça peut faire prendre atteinte à l'ordre public, bref. Alors que c'est vraiment de la merde. Quand j'ai fait un autre court-métrage par la suite qui s'appelait Djihad, j'ai rien eu. Pas de courrier et tout. Et pourquoi j'ai rien eu? Parce que je l'ai tourné avec un juif israélien. Enfin, donc la donne était différente. Mais le premier cours que j'avais fait, quand je suis parti voir mon avocat à l'époque, je lui ai dit qu'est-ce que je fais, est-ce que je peux faire du bruit, etc. et tout. Il m'a dit, en France, attends d'être un réalisateur connu, qu'on peut pas attaquer facilement. Pour faire les trucs engagés. Okay. Il m'a dit, parce que si tu fais les trucs engagés dès le début, ils vont te fermer toutes les portes. Et du coup, c'est un conseil que j'écoute vraiment. Donc là, je laisse d'abord tout exploser en 2023. Inch'Allah, si tout va bien, Inch'Allah. Si Dieu me le permet. C'est une fois que j'aurai pas une légitimité dans ce milieu-là,
mais une assise.
Voilà, une assise. Et en plus, moi, je suis dans un état d'esprit déjà. Je veux une émancipation totale. C'est pour ça que j'ai créé mon propre magazine. Je vais lancer ma télé. Je vais arriver à ce moment où Boza Industries, qui est ma boîte, elle soit vraiment qu'elle ait besoin de personne. C'est pour ça qu'on veut absolument notre propre théâtre, notre propre cinéma. On peut
indépendante.
Mais en plus, le pire, c'est qu'on sera indépendant à
100%. Comme l'Algérie.
Oh, mais pire encore que l'Algérie. Sauf que nous, on ne sera pas dans les trucs sales, tu vois. Mais c'est vraiment l'indépendance totale. Et je pense qu'une fois qu'on aura l'indépendance totale, là, on pourra faire ce qu'on veut. Parce qu'on ne pourra pas nous attaquer à ce moment-là.
Bien sûr.
C'est mort.
Bien sûr.
Imagine-toi que moi, par exemple, Boza Industries, il a fallu que je l'ouvre aux États-Unis pour pouvoir travailler en France avec. Ça veut dire que même la télévision que je vais lancer, je vais pas être sous le coup du CSA parce que c'est aux États-Unis, c'est pas en France. Tu vois? Donc, on est obligé de faire des trucs comme ça. Et même pour la LDA, le siège va sûrement être à Londres parce qu'à Londres, on va avoir plus de facilité à pouvoir faire ce qu'on veut qu'en France. Tu vois, c'est triste de devoir aller chercher ailleurs.
Ailleurs, point.
Voilà. Donc, du coup, c'est voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, ouais, le conseil que je peux donner aux gens, c'est protéger vos enfants. Le plus important, c'est de laisser les enfants grandir et vivre leur jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on responsabilise les enfants trop, trop tôt. On leur apprend à être des adultes très tôt. Et le plus gros fléau que moi, je vois par rapport à tout ça, c'est le copinage qu'il y a entre les parents et les enfants. Il faut toujours avoir cette barrière. C'est pas ton pote, c'est ton gosse.
Enfant.
Voilà. Tu peux avoir un comportement amical avec ton gosse et taper des barres, être son confident. Mais il faut pas que ce soit ton pote. Non. C'est ton enfant, tu es le père, tu es la mère, c'est ta fille. Du moment où tu vas casser ce truc-là, c'est pas bon déjà. Tu vois, déjà, c'est pas bon. Et après, comme je disais, ouais, il faut laisser vivre leur jeunesse et protéger vos enfants, c'est le plus important.
Merci, Béor.
Je t'en prie, merci beaucoup
d'être venu sur Génération dans l'Octogone. Et on se retrouve bientôt, en tout cas. Inch'Allah. Je le souhaite.
Génération, Hip Hop Soul Radio.